Vous écoutez Radio France Internationale, il est 19h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel et à Accra.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce lundi. Toute l'actualité sur le continent, pendant 30 minutes, c'est avec Paul Lonsin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à tous. À la une, cette tournée diplomatique du président du Ghana pour tenter de resserrer des liens distendus entre l'Alliance des États du Sahel et la CDAO. John Dramani Mahama était aujourd'hui au Burkina Faso, troisième et dernière étape de cette visite dans la région après des passages au Mali et au Niger. Ce week-end, il réclame une reconnaissance de la par la communauté économique ouest-africaine. Une nouvelle plateforme d'opposition lancée en Côte d'Ivoire, 25 formations dont le PDCI, le COGEP ou encore le FPI veulent ainsi obtenir des réformes électorales et arriver en position de force dans un dialogue avec le pouvoir. Au Tchad, le journaliste directeur de la publication de l'hebdomadaire Le Pays, Olivier Monodji, inculpé cet après-midi entre autres pour intelligence avec une puissance étrangère, il a été placé sous mandat de dépôt. Et puis dans la deuxième partie d'Afrique Soir, reportage long format sur ces routes débarrassées désormais de Boko Haram dans la région du Maïdougouri au Nigeria. Et puis pour terminer notre chronique musique, ce sera avec Franck Baudin. Une troisième et dernière étape pour tenter d'acter un rapprochement entre AES et CDAO. Après le Mali et le Niger ce week-end, John Dramani Mahama est arrivé à la mi-journée aujourd'hui à Ouagadougou au Burkina Faso. Le président du Ghana avait organisé sa tournée dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel sans l'aval de la communauté économique ouest-africaine. Il avait quand même reçu le soutien de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une démarche diplomatique construite autour de méthodes inédites, Guillaume Thibault.
Juste avant de décoller ce lundi matin pour Ouagadougou, John Dramani Mahama a cassé les codes diplomatiques sous-régionaux en évoquant sur les réseaux sociaux de la présidence la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CDAO. Une proposition visiblement évoquée par le chef de l'État à Niamey dimanche avec le numéro 1 de la junte Abdourahmane Tiani. Dès son arrivée à Ouagadougou, à l'aéroport Thomas Sankara, le président du Ghana, accueilli avec les honneurs militaires, s'est rendu au salon présidentiel avec le capitaine Ibrahim Traoré pour un premier tête-à-tête. Les deux hommes se connaissent. Invité, le numéro 1 de la junte burkinabé s'est rendu à l'investiture du chef de l'État en janvier dernier à Accra. John Dramani Mahama avait déjà appelé à l'intégration sous-régionale, alors qu'à Niamey, la junte n'a fait aucune référence à la CDAO, qu'à Bamako, Assimi Goïta n'a fait aucune déclaration. La présidence burkinabé a indiqué que les échanges entre Ibrahim Traoré et John Dramani Mahama ont porté sur la situation sécuritaire au Sahel et la situation géopolitique sous-régionale et internationale.
Guillaume Thibault, bâtir une opposition solide et organisée face au président ivoirien Alassane Ouattara. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a été lancée officiellement ce matin à Abidjan. Elle regroupe 25 partis politiques, dont le PDCI de Tidjane Thiam, le COGEP de Charles Blé Goudé ou encore le FPI de Pascal Affine-Guessant. Une plateforme qui vise à obtenir des réformes électorales et un dialogue politique, Binta Diagne.
Cette coalition se présente comme un cadre non idéologique de concertation et d'échange. Principaux objectifs, obtenir un dialogue politique et des réformes électorales, car selon cette coalition, les conditions pour une élection présidentielle apaisée ne sont pour l'instant pas réunies. Ces derniers mois, les membres de cette plateforme ont adressé deux lettres au chef de l'État, mais en vain. Simone Aïvé Bagbo, porte-parole de cette coalition.
Les partis politiques dans l'opposition maintiennent pour préserver les Ivoiriens des désirs et tentatives scélérates de violence, maintiennent leur appel au dialogue national en vue de pacifier les esprits et conjurer le sort des violences électorales.
Pour éviter les tensions au cours de la présidentielle, le scrutin doit être inclusif, estime cette plateforme, Tidjane Thiam, le coordonnateur de cette coalition.
Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger.
Absent de cette cérémonie, le PPACI qui depuis le 14 juillet 2024 a initié une démarche similaire autour de Laurent Gbagbo. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Tchad, le journaliste Olivier Monodji, placé cet après-midi sous mandat de dépôt, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, a été inculpé, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère pour ses écrits dans ce média. Par ailleurs, correspondant de RFI au Tchad, Olivier Monodji avait été arrêté mercredi dernier et placé en garde à vue à la coordination de la police judiciaire à N'Djamena. Jusqu'à présent, rien pour justifier son arrestation ne lui avait été communiqué. Les faits reprochés lui ont finalement été notifiés aujourd'hui après avoir été auditionné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la capitale tchadienne. Le TGI a ensuite annoncé publiquement avoir reçu des documents selon lesquels des Tchadiens auraient fourni des informations sur la sécurité et l'économie du pays à une puissance étrangère sans préciser laquelle. Olivier Monodji et trois autres personnes, dont un journaliste du service public, sont mises en cause. Esdras Dikoumana.
Le procureur de la République près le TGI de N'Djamena a précisé dans sa courte déclaration aux médias tchadiens Al-Wida Info ce qu'on reproche aux quatre inculpés, des charges très lourdes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Après leur interrogatoire, il a été constaté que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d'infractions, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Eu égard à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte pour citer la responsabilité de tout un chacun.
Les quatre hommes ont ensuite été entendus par le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour intelligence avec l'ennemi et pour complot ou encore atteinte à la sécurité du territoire national qui est passible d'une peine de 20 à 30 ans de prison selon un des avocats d'Olivier Monodji. Celui-ci dénonce un dossier vide à ses yeux, Maître Amos Alata.
On attendait qu'il nous dise le degré d'implication de notre client qui est journaliste de profession. Nous lui avons rappelé qu'à la police du judiciaire, on lui a présenté que des coupures de presse dont il a reconnu la publication dans son site du journal Le Pays, des informations qui ont un caractère plutôt publicitaire. Mais on n'a pas dit qu'est-ce que M. Olivier a fait concrètement.
La mission du doyen des juges d'instruction approfondir celle-ci pour situer la responsabilité de chacun des mises en cause. En attendant, tous les quatre ont été placés sous mandat de dépôt et ont été acheminés vers la maison d'arrêt de Klessoum pour y être incarcérés.
Esdras Dikoumana, un socle de soutien encore plus solide dans un contexte sécuritaire tendu dans l'est de la RDC. C'est ce que recherche le président congolais Félix Tshisekedi en restructurant l'Union sacrée de la nation. Son président va désormais compter en effet 40 membres contre 6 jusqu'à présent. C'est le secrétaire permanent de la plateforme André Bata qui a officialisé cette décision samedi, Patient Ligodi.
L'Union sacrée, créée en 2020 pour assurer la réélection de Félix Tshisekedi et lui garantir une majorité confortable, a toujours eu du mal à se structurer. Son présidium, limité à 6 membres, a alimenté des frustrations, d'autant plus que certains poids lourds ont perdu en influence, notamment après les élections. Le 22 février, Félix Tshisekedi lui-même a critiqué le manque d'engagement de certains alliés, notamment face à l'appel à la mobilisation contre l'AFC M23. À l'inverse, il a salué l'implication des figures comme Jean-Pierre Bemba et Guy Luando. Résultat, une refonte du présidium qui passe de 6 à 40 membres, intégrant d'autres chefs de regroupement politique. Selon un proche du président congolais, l'idée est que le présidium soit composé des chefs de regroupement politique, comptant chacun au moins 10 députés nationaux. L'objectif est double, réduire les contestations internes et éviter que certains leaders ne soient tentés de se rapprocher d'autres mouvements politiques. Cependant, cette réorganisation suscite des réserves au sein de la coalition. Certains contestent le format et demandent des ajustements. Félix Tshisekedi, lui, ne s'est pas encore exprimé, mais des consultations sont en cours. L'enjeu est clair, stabiliser l'Union sacrée et s'assurer une majorité sans faille dans un climat politique et sécuritaire tendu.
Patient Ligodi en République démocratique du Congo, toujours dans ce contexte donc de conflit dans l'est du pays. Les ténors du parti de l'ex-président Joseph Kabila ont été auditionnés à Kinshasa. Aubin Minaku, numéro 2 du PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari et son adjoint Ferdinand Kambéré ont quitté l'auditorat militaire de la capitale il y a quelques minutes. Les autorités soupçonnent ces hauts responsables ou leur parti de collusion avec le M23 soutenu par le Rwanda, ce qu'ils ont toujours démenti dans les médias. Ils devraient désormais s'exprimer dans la soirée. C'est une affaire judiciaire qui avait secoué le Rwanda, condamné à 5 ans de prison pour viol et sollicitation sexuelle d'ancienne candidate de Miss Rwanda. L'ancien organisateur du concours de beauté a été retrouvé aux États-Unis. Il a été arrêté et doit être renvoyé à Kigali, Lucie Mouillot.
Le service de l'immigration et des douanes américaines affirme avoir arrêté Dieudonné Ishimwe, également connu sous son nom de scène Prince Kid, à Fort Worth au Texas, où l'homme de 38 ans résidait sans autorisation. L'ancien organisateur de Miss Rwanda avait pourtant été condamné en octobre 2023, en son absence, par la haute cour de Kigali pour viol et sollicitation de faveurs sexuelles, des accusations portées dès 2022 par d'anciennes candidates du concours de beauté. Les autorités américaines affirment que Dieudonné Ishimwe est entré légalement aux États-Unis sans préciser la date de son arrivée. Elles affirment qu'il a ensuite violé les conditions de son admission et que le procureur de la République du Rwanda a émis un mandat d'arrêt contre lui pour viol en octobre 2024, soit un an après sa condamnation. Dieudonné Ishimwe reste en détention dans l'attente de la procédure d'expulsion vers son pays d'origine. Depuis l'éclatement de l'affaire en 2022, aucune nouvelle édition du concours de Miss Rwanda n'a été organisé. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Au Kenya, au moins 10 personnes blessées et 38 arrêtées lors d'une manifestation. La mobilisation avait lieu dans le quartier de Kasarani, ça se trouve dans la grande banlieue de Nairobi. Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux. Quelques centaines de jeunes y ont répondu en essayant d'entrer dans l'église du ministère de Jésus le Vainqueur pour protester contre une donation importante que le président William Ruto lui avait dédiée, Gaël Lalex.
20 millions de shillings kenyans, soit plus de 140 000 euros, c'est le don de William Ruto à l'église du ministère de Jésus le Vainqueur pour construire son extension. Une somme astronomique alors que nos écoles et nos hôpitaux ne fonctionnent pas, confie ce matin Patrick Kamao, l'un des manifestants. La confrontation avec les forces de l'ordre a duré plusieurs heures hier à Kasarani. Dès l'aube, l'église du ministère de Jésus le Vainqueur était encerclée par des policiers. La messe a été avancée d'une heure et écourtée de moitié et les tirs de gaz lacrymogène ont duré jusqu'en milieu d'après-midi. Hier, Faith Odhiambo, la présidente de la Société kényane du droit, déplorait des violences policières. Les avocats de l'organisation se sont également vus refuser l'accès aux manifestants arrêtés. De son côté, William Ruto persiste et signe. Il donnera de nouveau 20 millions de shillings à une autre église, à Eldoret, dans la vallée du Rift. C'est un devoir moral, selon le président, qui considère que les manifestations d'hier sont l'œuvre d'un croyant. En novembre, les églises catholiques et anglicanes Kenyan avait dénoncé avec virulence la corruption du gouvernement Ruto et annoncé ne plus accepter de dons de la part de politiciens. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Le Soudan du Sud de nouveau au bord du précipice. Dans un nouveau rapport, l'International Crisis Group dit craindre un risque de guerre à grande échelle à cause de la récente flambée de violence dans l'état du Haut-Nil au nord-est du pays. Le président Salva Kiir accuse le camp du vice-président Riek Machar de menacer le fragile gouvernement d'unité formé dans le cadre d'un accord de paix en 2018 qui avait mis fin à 5 ans de guerre civile. Pour le dossier de cette édition, nous revenons ce soir sur RFI, sur cette escalade liée en fait directement au conflit au Soudan voisin, Paul Lorgerie.
Selon le rapport de l'ICG, la tension est à son comble dans la capitale Djouba. Depuis quelques semaines, la guerre au Soudan a causé la perte de 2/3 des revenus liés à l'exportation de pétrole en raison de l'endommagement de l'oléoduc qui transporte l'or noir à travers certaines zones tenues par les forces de soutien rapide vers Port-Soudan. Résultat, le gouvernement d'Union nationale, qui ne tenait qu'à un fil, a vu ses revenus drastiquement diminuer, ayant comme effet une recomposition des alliances qui risque de faire voler en éclats l'accord de paix de 2018. Coupé de sa principale source de fonds qui servait son réseau clientéliste et donc la stabilité de son gouvernement, Salva Kiir s'est récemment rapproché du général Emeti, chef des FSR, s'éloignant ainsi du général Al-Burhan à la tête de l'armée soudanaise. Cette dernière, elle, aurait réactivé d'anciennes connexions avec des milices nuères affiliées à Riek Machar dans le Haut-Nil. Un cocktail qui a donné lieu le 4 mars dernier à la prise d'une base militaire dans la ville de Nasir par la White Army, alliée de Riek Machar, dont beaucoup de sympathisants ont été arrêtés par la suite. Si le vice-président est resté calme pour le moment, les chercheurs d'ICG préviennent que des milices qui lui sont restées fidèles se tiennent non loin de la capitale sud-soudanaise.
Paul Lorgerie, Salva Kiir a donc tenu à rassurer ensuite devant la presse. Le président a assuré qu'il ne replongera jamais le Soudan du Sud dans la guerre, promettant aussi de rester sur le chemin de la paix. Une voie désormais menacée selon Emmanuel Veuillet. Elle est post-doctorante en sociologie politique à l'EHESS et à l'Institut du Monde Africain. Elle répondait aux questions d'Arthur Ponchelet dans Afrique Midi.
Des incidents qui sont survenus là depuis maintenant ce dernier mois a gravement fait monter les tensions au sein du pays et les tensions donc entre les différentes forces politiques et militaires parties prenantes à l'accord de paix, avec une politique du côté du gouvernement qui n'est pas vraiment à l'apaisement. Et c'est pour ça que cette adresse à la nation qui est intervenue vendredi a permis à beaucoup de souffrir. Je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un appel à l'apaisement, notamment parce que cette adresse à la nation faisait suite à l'assassinat de commandant en charge des troupes gouvernementales à Nasser. Et depuis une semaine, il y avait des affrontements armés entre les troupes gouvernementales et les forces...
Et la White Army qui est alliée à Riek Machar.
Alors la White Army qui a son propre commandement, qui n'est pas sous la commande de Riek Machar et du SPLM-IO comme le gouvernement veut le décrire intentionnellement pour pouvoir mettre la responsabilité sur les forces de la SPLM-IO.
Justement, cette guerre de 2013 à 2018, on y a mis fin avec un accord de paix en 2018 signé entre Salva Kiir et Riek Machar, mais depuis 2018, la mise en œuvre de cet accord de paix, elle est toujours précaire.
On voit qu'aujourd'hui, énormément des incidents qui interviennent sont la conséquence de la non-application de l'accord de paix. La première des provisions aurait été de unifier les forces armées des différentes parties prenantes de l'accord. Et donc, on n'aurait jamais eu aujourd'hui une discussion sur quelles sont les forces gouvernementales qui ont attaqué les forces IO ou les forces IO qui s'en seraient pris aux forces gouvernementales. Tout aurait été dans un seul et même appareil militaire unifié.
Il y a aussi la guerre au Soudan voisin. Comment est-ce que la guerre de généraux qui s'y déroule pourrait avoir des conséquences sur la situation politico-militaire au Soudan du Sud ?
La frontière commune a été une zone d'échange et de flux, et notamment d'armes et de munitions. Il y a eu aussi des troupes qui sont parties du côté soudanais, soutenir à la fois les forces armées de Al-Burhan, mais aussi les forces de Hemeti. Le conflit au Soudan étant très cyniquement aussi une opportunité donc pour les forces armées sud-soudanaises d'obtenir donc des munitions, de l'armement et un soutien matériel. Et de la même manière, aujourd'hui, il peut y avoir un agenda aussi des forces armées soudanaises du côté Al-Burhan, mais aussi de RSF, d'essayer de s'allier à des forces armées au Soudan du Sud. Donc les deux scènes politiques sont encore une fois pas du tout stabilisées. Il n'est pas du tout clair quelle force politique s'allie à quelle force au Soudan.
Emmanuel Veuillet, interrogé par Arthur Ponchelet. 7 candidats pour incarner la gouvernance de l'olympisme. Le comité international olympique élira son nouveau patron dans 10 jours en Grèce. Il devra succéder à Thomas Bach et parmi eux, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Jr., le vice-président de l'institution depuis 2022, âgé de 65 ans, souhaite notamment encourager les candidatures à l'organisation des Jeux venant de nouveaux pays, notamment les pays africains. Et pour cela, il est prêt à demander aux fédérations internationales de s'adapter.
J'essaie tout le temps de parler d'universalité. Et un des aspects de cette universalité, c'est que nous devons nous assurer qu'il n'y ait aucune partie du monde qui soit exclue de la possibilité d'amener les bénéfices de l'organisation des Jeux Olympiques à leur communauté. Quand nous aurons des projets qui ont du sens et qui sont réalisables, nous devrons supprimer toutes les contraintes et tous les désavantages causés, par exemple, par le climat, qui pourrait affecter une part importante de votre continent. Donc, nous devrons nous assurer que nous sommes prêts à modifier le calendrier sportif mondial de l'année olympique si nécessaire. Si une candidature vient d'Afrique, soyez sûr qu'elle sera en compétition équitable avec d'autres projets et qu'elle ne sera pas désavantagée à cause du climat.
Juan Antonio Samaranch Jr. devant les journalistes de l'Association internationale de la presse sportive. RFI, 18h48 en temps universel. Un apaisement sécuritaire qui redonne du souffle à tout le bassin du lac Tchad. 15 ans après le déclenchement de l'insurrection Boko Haram, la situation s'est nettement améliorée. Le groupe armé nigérian s'est en effet replié essentiellement sur des îles du lac Tchad et dans certaines poches terrestres. Des millions de déplacés et de réfugiés sont retournés dans leur communauté d'origine. L'économie de cette région se redresse aussi à l'image de Maïdougouri. Depuis la fin 2020, selon certains observateurs, la capitale du Borno dans le nord-est du Nigeria redevient une place forte de l'économie, notamment car Boko Haram a été chassé des axes routiers qui traversent la ville en direction du Tchad, à l'est du Niger au nord et du Cameroun au sud. C'est un reportage signé Moïse Gomis.
Bientôt 20 ans que Abdoulaye sillonne la route Maïdougouri-Gambourou menant au Tchad. Ce commerçant convoie des véhicules achetés à Lagos pour des clients en roulant sur cet axe jusqu'au Soudan. En 2013 et en 2016, il est contraint à l'arrêt car Boko Haram occupe alors de nombreuses localités. Courant 2016, lorsque cette route est rouverte, Abdoulaye reprend son activité sous escorte militaire malgré les risques.
Nous devions garer notre voiture près de ce panneau de bienvenue, puis attendre l'arrivée des militaires depuis la caserne. Plusieurs véhicules militaires à l'avant, d'autres à l'arrière, nos voitures au milieu. Et nous roulions ainsi jusqu'à la frontière de Gamboru. Les militaires s'arrêtaient là, étions suffisamment en sécurité pour continuer notre trajet sans escorte. Puis au retour, en arrivant à la frontière de Gamboru, on devait attendre de nouveau l'escorte.
Depuis 2022, certaines semaines, Abdoulaoui et son équipe livrent jusqu'à une dizaine de véhicules SUV, car la route A3 subit de moins en moins d'attaques.
6 ou 7 checkpoints, ce sont les principaux points de contrôle habituels. Les militaires descendent et procèdent à des vérifications. Vous devez payer les taxes imposées. Progressivement, nous sommes en mesure de circuler sur cette route en toute tranquillité d'esprit.
Au milieu de Gamboru Market, Aladji Oumar, lui, vend en gros du tissu wax. Malgré la nette amélioration de la sécurité dans Maïdougouri, sa clientèle étrangère reste angoissée à l'idée de venir sur place.
Mes clients du Tchad et du Cameroun ne viennent plus ici comme avant à cause de Boko Haram, mais nous communiquons avec eux via WhatsApp. Ils choisissent ce dont ils ont besoin et nous leur livrons. Dans l'autre sens, certains commerçants traversent la frontière avec des marchandises à livrer ici de temps en temps. En raison de l'insurrection, ça n'arrive plus.
Mais Aladji Oumar reste optimiste, car grâce à la réduction des attentats kamikazes, au moins ses clients locaux se déplacent jusqu'à sa boutique pour négocier en direct. Moïse Gomis, de retour de Maïdougouri, RFI.
La première partie de notre série en deux reportages sur le retour de la sécurité des routes de Maïdougouri à retrouver sur RFI.fr. Radio France Internationale, il est 19h51 à Paris. À suivre après cette édition, le journal international. Et puis Accent d'Europe consacré à l'Ukraine ce soir. Alors que les négociations sur la fin de la guerre avec la Russie se mettent en place, la fin de l'aide américaine et du renseignement touche directement les combats sur le terrain. Cette mise en retrait des États-Unis, elle atteint aussi les ONG, les associations d'aide aux vétérans et à leurs familles notamment, peinent à composer sans ces financements en provenance de l'USAID.
C'est étrange car ce n'est pas l'attitude d'un véritable partenaire. Si vous avez des problèmes avec l'USAID, la première chose à faire serait peut-être de mener un audit pour comprendre ce qui se passe avec l'argent et éventuellement de fermer certains programmes, mais pas de tout couper d'un coup. De vrais partenaires ne font pas cela.
Un reportage à retrouver en longueur à 19h10, temps universel, ou bien en podcast sur notre site www.rfi.fr ou encore l'application Pure Radio. Au programme également ce soir sur RFI, Couleur Tropicale avec Claude Issiard à 20h10 TU, avec une farandole de tubes à vous faire écouter de Réma Ténor, Josei en passant par SDM ou encore Chris M.
Ne servent à rien et que sans eux tu ne pourras pas avancer. Ils ont oublié ce que tu leur as fait de bien. Seulement sur tes défauts qu'ils ont voulu te juger. Ah, le pardon que tu demandes quand tu commets une erreur est devenu comme l'ennemi. Est-ce que vous êtes des non-pécheurs? Ils ne décident de rien. Ce qui est mal ou bien, confie ta vie à Dieu parce que ce n'est pas l'homme. Oh, oh. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme.
Couleur tropicale avec Claudicia, rendez-vous sur RFI à 20h10.
Afrique Soir.
C'est l'heure de notre tour d'actualité musicale avec Franck Baudin de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Paul et bonsoir à tous.
On commence notre sélection avec ce style de musique orientale, dansant et festif. On parle de raï ce soir.
رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.
Ce Ce qu'on écoute, c'est le célèbre tube Yaraya du regretté Rachita, une façon d'illustrer la une du site musique de RFI, Franck.
Et oui, c'est notre journaliste Marjorie Bertin qui s'est rendue à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, cette petite bourgade du nord de la France. Elle a visité pour nous l'exposition Yaraï, un événement qui met la musique raï à l'honneur. Son reportage nous explique tout de cette musique née en Algérie au début du XXe siècle. On y parle également de l'âge d'or du raï dans les années 80 avec ses icônes Cheb Khaled, Sheba Fadella, Cheb Sahraoui et jusqu'aux nouvelles générations comme Sofiane Saïdi ou Cheb Bello. La liste est très longue, mais je vous invite à lire cet article pour en savoir plus.
Et on passe du raï d'Oran à la Kinyatrap de Kigali. Le titre Tabati de l'artiste rwandais Bouchali. Alors j'ai été bien attentif, Franck, ça ressemble quand même beaucoup à de la Kinyatrap, c'est ça?
Alors vous avez l'oreille fine, Paul, c'est bien de la Kinyatrap, ce style musical qui secoue Kigali depuis quelques années déjà. Il s'agit d'un mélange de trap, cette version américaine du rap 2.0, avec le Kinyarwanda, la langue nationale rwandaise. Ils s'appellent Bouchali, Ishkevin ou encore Logan Joe et font partie de cette génération de jeunes rappeurs rwandais. Notre reporter Anne-Laure Lemancel les a rencontrés au cours d'un récent voyage dans le pays aux mille collines. Elle nous partage un grand angle sur cette musique rythmée.
Et pour finir, Franck, on prend la direction de la République démocratique du Congo?
Alors pas tout à fait, Paul, on va parler d'artistes congolais et d'artistes d'origine congolaise. Notre journaliste Pablo Patarin a posé la question: comment les artistes d'origine congolaise dominent la scène musicale francophone?
Je suis impatient d'avoir la réponse, mais où est-ce que je peux la trouver?
Alors la réponse, Paul, vous la trouverez dans notre grand angle qui est sur le site rfi.fr/musique. On revient sur les succès de Nino, d'Adju SDM ou d'Amso. Là encore, la liste est longue. On parle de leurs liens, leurs traditions, leur métissage culturel. Ça remonte jusqu'à Taboulet Rochereau pour certains. Rendez-vous compte, il faut lire l'article pour comprendre. Et pour illustrer ce sujet, j'avais envie de couper l'herbe sous le pied à DJ Facemaker qui sera ici à ma place demain soir. C'est tout frais, ça vient de sortir. Je vous propose d'écouter Ninao, le tout dernier tube de Gix.
Dès que j'arrive, ça regarde travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petit pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani nina oh, ani nanina nina oh, ani nanani nina oh. Ni na ni na ni na o, ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o, ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o.
Ninao de Gims pour refermer cette chronique d'RFI Musique. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Soir. Merci à vous pour votre fidélité à la réalisation. Raphaël Lazizi, rédaction en chef Alexis Guilleux, assisté de Guillaume Bédrane. Dans un peu plus de 30 secondes, le retour de l'actualité internationale avec Véronique Rigolet.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.